Internet.
انترفيو. مصيفي برنامجكم حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضر معنا كما قلت لكم في الاستوديو سيد دومينيك ماس، قنصل فرنسا بتونس. بونجور.
بونجور
مصيفي.
Merci d'accepter votre invitation.
Ce matin. Alors, j'ai tout de suite attaqué hein, donc, avec le sujet. Je pense que jusqu'à il y a quelques secondes encore, des messages, tout tourne, enfin, une grande majorité des questions tournent autour de la question de la mobilité et des visas. Déjà, bienvenue en Tunisie. Donc, c'est
Merci.
Votre première apparition médiatique.
Mais moi, j'avais envie d'abord de commencer avant de parler des visas, en remerciant les Tunisiens de m'accueillir dans leur pays et puis vous dire combien j'étais heureux d'être en Tunisie depuis maintenant 3 mois. Vous savez peut-être, moi, je suis né sur l'autre rive de la Méditerranée, donc on a quand même, je ressens ce partage de culture, 3000 cultures d'échanges culturels et commerciaux. Donc la mobilité, on connaît sur les rives de la Méditerranée. Moi, je suis très heureux qu'en France, quand je suis arrivé ici, j'ai appris qu'il y avait 4400 étudiants tunisiens à qui on avait donné des visas, des bourses, des visas pour aller étudier en France. Et c'est certainement la fierté des parents tunisiens, mais c'est aussi la fierté de la France que d'accueillir et de former ces jeunes. Et puis, on en voit à peu près, chaque année, nous avons 7000 travailleurs tunisiens qui rejoignent la France, 7000 supplémentaires. Hein. C'est-à-dire, chaque année, par exemple, il y a 2000 saisonniers en plus qui s'ajoutent aux saisonniers habituels, qui viennent travailler pour quelques semaines ou quelques mois en France. Puis, à côté de cela, on a 5000 personnes qui partent chaque année sur des visas professionnels. Donc les échanges existent, les échanges ils sont aussi dans l'autre sens.
On va parler dans l'autre sens, ça c'est un peu méconnu, c'est saisonnier, on en entend parler. Donc il y en a 2000 tous les ans,
2000, nous faisons 2000 visas pour des travailleurs saisonniers. Ça veut dire qu'ensuite,
ils sont en France, ils ont un
titre de séjour saisonnier, on va dire, et ensuite, ils reviennent l'année suivante, ils reviennent 2 ans après, ils font les saisons, ils font les vendanges dans mon sud natal, ils font cueillir les fruits dans la Drôme, enfin, je sais pas.
Mais dans le tourisme également, apparemment.
Dans le tourisme aussi, notamment sur toute la côte méditerranéenne, effectivement, quand on a des demandes. Et cet été, par exemple, je l'ai vécu dans ma ville natale. Cet été, on a eu un fort manque de main-d'œuvre française, disons, dans l'hôtellerie. Et on a fait appel beaucoup à de la main-d'œuvre étrangère, notamment tunisienne, mais aussi marocaine ou d'autres pays. J'étais aux Seychelles avant, j'avais des amis séchellois qui partaient travailler en France dans le tourisme ou sur les marinas.
Et donc, ils font la saison et qui repartent et qui reviennent.
Ils font la saison, qui repartent, qui reviennent en fonction des contrats.
C'est facile à gérer ?
Pour moi, oui, parce que c'est l'OFI qui s'en occupe et qui fait ça très très bien.
D'accord, c'est des dossiers,
il y a une procédure très particulière, c'est très très bien géré par l'OFI et c'est géré dans les temps.
Très bien. Et il y a 5000 autres, donc ces 5000, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur ces 5000, sur les différentes populations, professions, parce qu'on parle toujours de départ de professionnels de la santé, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore vrai? Est-ce que ce sont les populations qui partent le plus ou est-ce que c'est assez... Voilà, les ingénieurs également.
Je n'ai pas de pourcentage là-dessus. Je sais qu'on a beaucoup de professionnels de la santé, effectivement, qui nous rejoignent pour un certain nombre d'années. Et je trouve que c'est intéressant, cette mobilité circulaire. Parce que ce sont des gens qui vont acquérir une expérience supplémentaire en France et puis qui un jour reviendront en Tunisie pour travailler dans le secteur médical privé ou public tunisien. Donc c'est un peu le même système qu'on a au Liban, ces allers-retours, cette mobilité circulaire, c'est très utile. On a beaucoup d'ingénieurs en informatique qui sont d'abord employés dans les entreprises sur investissement français en Tunisie. Les investissements français en Tunisie, ça représente ces 150 000 emplois. Et j'ai découvert qu'on avait des entreprises qui embauchaient des Tunisiens de très haut niveau de formation. Et on a aussi 5000, donc je vous disais, 5000 Tunisiens qui chaque année partent avec leur diplôme ou leur expérience d'informaticien, c'est-à-dire sur des métiers sur lesquels nous, on appelle ça des métiers sous tension, hein, c'est-à-dire sur lesquels on n'arrive pas à trouver de la main-d'œuvre. Et de la même façon que chez nous, on a tout un tas de Français qui quittent les emplois en France, qui vont aller travailler aux États-Unis, en Angleterre un peu moins, ou dans d'autres pays, parce qu'ils sont chercheurs, parce qu'ils sont enseignants, parce qu'ils sont aussi médecins. Ils vont gagner leur expérience un peu plus loin. Donc c'est cette mobilité circulaire qui nous touche touche tous les pays en fin de compte. Et c'est enrichissant. Enfin, faut se rendre compte que tous ces Tunisiens qui, de toute façon, quand ils sont à l'étranger, en France ou en Europe, renvoient une partie de leur argent sur la Tunisie. Les revenus tirés des populations tunisiennes à l'étranger, c'est 7% du PIB aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des revenus qui sont supérieurs aux revenus que vous rapporte le tourisme.
Et tout à l'heure, d'ailleurs, vous me parliez d'un commentaire spécifique qui a attiré votre attention autour de ces questions de la culture, du lien
Ben
franco-tunisien.
oui, c'est un commentaire que j'ai dû voir sur votre Facebook ou celui de l'ambassade. C'est un monsieur tunisien qui explique, mais la France, pour nous, c'est notre extension culturelle et commerciale. C'est très beau comme vision et c'est vrai, il y a de tels liens. Et c'est pour ça que ce que je voudrais dire, c'est que nous, France, on a tout intérêt à favoriser cette mobilité. Et de fait, on est en Tunisie le premier acteur de la mobilité tunisienne. C'est-à-dire, l'accès à l'Europe se fait essentiellement par le consulat général de France en Tunisie. C'est nous qui délivrons actuellement, vous le savez déjà, 70% à peu près des visas Schengen sont délivrés par le consulat de France. Hein. Et nous avons sur l'ensemble des visas d'ensemble des dossiers que nous recevons, 72-73% des dossiers sont acceptés et les gens obtiennent un visa. 40% des dossiers que nous délivrons sont des visas de long séjour. C'est-à-dire les personnes obtiennent des visas pour plus de 6 mois, 1 an, 2 ans. Voilà. Donc on a 40% de nos visas qui sont des visas long séjour. Et on a en ce moment, puisqu'on parlait de la mobilité, on a en ce moment une hausse de 25% des visas que nous délivrons pour les longs séjours, ce qu'on appelle les longs séjours professionnels, c'est-à-dire des Tunisiens qui vont en France pour travailler. Donc ça, c'est des tendances qui existent, qui ont repris, hein, parce que après 2 ans, 2 ans et demi de Covid, on a retrouvé un rythme à peu près normal dans les dossiers de visa. C'est ce qui fait aussi qu'on a de l'obstruction et du retard à traiter. Mais globalement, on est sur des taux de refus, puisque le sujet est là, on est sur des taux de refus qui sont inférieurs à la moyenne des autres ambassades européennes en Tunisie. Voilà. Et donc, on est quand même, on le voit, on est quand même très ouvert sur la mobilité. On est le premier acteur de la mobilité en Tunisie, qu'on le veuille ou pas. Hein?
Mais le taux de ce taux de refus, justement, si on le voit comme ça, de toute façon, c'est la manière la plus simple de le voir. Ce taux de refus, il est de plus en plus élevé, c'est-à-dire il a augmenté.
Non.
Il a beau être inférieur par rapport aux autres
Alors,
chancelleries, mais.
il a augmenté il y a il y a un an et demi. Parce que vous le savez, il y a eu un certain nombre de mesures, dites mesures incitatives, qui avaient été prises par le gouvernement français pour justement inciter nos partenaires du Maghreb à discuter, à dialoguer de la question des migrations et des migrations illégales. Le dialogue avec la Tunisie s'est extrêmement bien passé. Aujourd'hui, on a retrouvé un niveau de coopération qui est exemplaire en matière de lutte contre la migration illégale, qui est notre lutte commune, hein. La Tunisie aussi souffre de ces migrations. Et ce qui fait que les mesures
Pourquoi la
incitatives,
Tunisie souffre? Parce que c'est un lieu de passage,
parce
parce
que
que c'est pas
c'est un
que
lieu
des...
de passage,
Donc,
parce
et ça
que
amène beaucoup d'autres types de
voilà,
trafic ou de...
vous avez des trafics d'êtres humains, vous avez, on le voit, des drames comme à Zarzis ou ailleurs. Donc on a cet intérêt commun à lutter contre les migrations illégales. Et puis ensuite, on met des Tunisiens dans des situations illégales en France. Hein. En France, actuellement, vous avez 8 000 Tunisiens qui font l'objet de ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, parce qu'ils sont en fin de visa ou parce qu'ils sont en situation où ils sont rentrés sans visa. Hein. Donc, sur ces 8 000, il y en a à peu près 1 000 qui rejoignent la Tunisie. Pas forcément de force, hein. La majorité rejoignent la Tunisie parce qu'ils savent qu'ils sont en situation illégale et ils rentrent, et puis ensuite ils refont un visa et ils repartent. Hein, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais voilà, il faut qu'on soit ensemble pour lutter sur ces flux migratoires qui peuvent gêner l'un ou l'autre des pays. Et nous le faisons. Et nous le réussissons. C'est pour ça que les mesures incitatives ont été levées et qu'on est aujourd'hui en dessous de ce 30%. Hein, on est actuellement, je pense, on est autour de 27% de taux de refus de visa, et c'est un niveau qui baisse. Hein. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Le visa a été établi, comme quand vous établissez en Tunisie des visas, il a été établi pour des raisons à la fois sécuritaires et des raisons de lutte contre l'immigration. D'accord ? Donc, bon, les raisons sécuritaires, on a un certain nombre de procédures qui nous permettent de vérifier les questions sécuritaires, et je crois qu'elles sont bien comprises de tout le monde. Et puis, on a la question de la lutte contre la migration. Et pour nous, c'est très compliqué, quand vous recevez 800 à 1000 dossiers par jour, d'évaluer les personnes, d'évaluer la situation financière des personnes.
Alors, 800 à 1000
c'est... 800 à 1000 dossiers tous les jours.
Tous les jours, à traiter.
Donc, c'est à traiter. Donc c'est énorme.
Quelles sont les ressources à votre disposition pour les traiter? Enfin, c'est une entreprise qui le fait, mais on parle de combien de personnes?
Non. Nous, on a, comme dans beaucoup de pays, on a un prestataire de services qui réceptionne les dossiers et qui fait ce qu'on appelle la biométrie en amont. Par contre, ils n'instruisent pas les dossiers.
Voilà. Donc ça
se
passe.
Par contre, ils font quelque chose de très important, et excusez-moi, mais j'engage vos auditeurs à bien écouter les gens de TLS, puisqu'il s'agit de cette entreprise. Ils vérifient la complétude, comme on dit, du dossier. Ils vérifient si le dossier est complet. Et ils disent bien aux gens, attention monsieur, il vous manque l'assurance, il vous manque l'attestation d'hébergement, etc. TLS vous donne la possibilité, dans la journée, de ramener les documents que vous avez oubliés. Parce que ça arrive, les erreurs. D'accord ? Mais il y a des tas de gens qui disent, non, je mets le dossier comme ça, sans document entier. Il faut savoir qu'un document qui n'est pas complet a toutes les chances de se faire refuser. Pourquoi ? Parce que nous, quand mes agents traitent 800 à 1000 dossiers par jour, ils font de l'abattage. Ils n'ont pas le temps de regarder et de rentrer dans le détail, et de dire, bon, telle personne, qui sait, d'aller chercher sur Internet si elle est connue, quelle est sa situation, si elle a une assise financière suffisante. On n'a pas le temps de téléphoner aux gens. Donc un dossier qui n'est pas complet, c'est un dossier qui est systématiquement refusé. Le visa, c'est pas un privilège.
Mais
vous voyez ce que je veux dire, c'est que les gens doivent faire un dossier complet.
Et ce n'est pas non plus un droit.
Et c'est pas un droit acquis.
Et
nous, nous traitons tout le monde de la même façon.
Mais alors, est-ce qu'on pourrait, à l'avenir, ne plus accepter, au niveau de TLS, des dossiers incomplets, tout simplement?
Non,
parce que derrière, c'est pour ça. Moi, je comprends. Ouais. Moi, j'essaie de comprendre. Vous me dites si j'ai bien saisi ou pas. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez. Là, on parle niveau consulat, parce qu'il y a un travail qui est fait en amont par TLS. Si ça se trouve, il y en a beaucoup plus par jour, mais il y en a qui repartent avec leurs dossiers parce qu'ils sont incomplets, etc. Donc vous, tous les jours, ça, 800, entre 800 et 1000 dossiers atterrissent sur vos dossiers traités par vos collaborateurs. Donc aujourd'hui, vous me dites que si le dossier est incomplet, on n'a pas le temps de faire les vérifications nécessaires. On a un tel nombre de dossiers à traiter qu'on est obligé d'aller, donc de dire tout simplement que cette personne n'a pas recevoir. Donc maintenant, je comprends mieux qu'on voit des gens, parfois moi-même j'étais étonné de voir des statuts sur des réseaux sociaux de personnes qui normalement, enfin moi je ne suis pas juge, ni j'ai pas l'expérience d'un travail consulaire, mais c'est vrai qu'ils ont de bons arguments pour dire, ah, pourquoi on a été refusé. Là peut-être, ça peut être effectivement une bonne raison. Mais à ce moment-là, je peux les comprendre que en ayant accepté leur dossier, on ne peut pas le refuser par la suite parce qu'il lui manquait des pièces. C'est ça le seul argument.
D'abord, il faut bien voir que l'instruction des dossiers de visa Schengen est régie par un code communautaire, un code de l'Union européenne. Donc nous, on ne peut pas déroger. Les documents qui sont demandés, même si parfois ça paraît pénible aux gens, et je le comprends, hein, de donner ses relevés bancaires, de fournir une assurance, de prendre une réservation d'hôtel. Je comprends que ça puisse être pénible à faire. Moi-même, je souffre de ces choses-là.
J'allais vous dire, d'ailleurs, vous-même, vous venez d'arriver, vous avez certainement votre lot de papiers à faire.
Oui, mais je ne le prends pas
installé en Tunisie.
Hein, oui, mais je ne le prends pas comme une humiliation, si vous voulez. On me demande un certain nombre de papiers à donner pour immatriculer mon véhicule. C'est normal, c'est la réglementation tunisienne, je la respecte.
Ouais. On me fait revenir parce qu'il manque un papier,
c'est un peu ma faute, je veux dire, je ne me sens pas du tout humilié.
Mais si on vous fait revenir parce qu'on a accepté votre dossier et qu'on ne vous a pas dit que ce papier manquait.
Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que bon, il y a donc ce code communautaire et on a un contrat avec une entreprise privée, quelle qu'elle soit. L'entreprise n'a pas le droit de refuser un dossier. Elle est là pour transmettre les dossiers. Elle fait la biométrie et elle transmet les dossiers. Elle prend soin quand même, avant de prendre le dossier, de dire, voilà, il manque telle et telle pièce. Si la personne dit, non, il n'y a pas de problème, je le dépose comme ça, ça ira, ou j'ai pas la pièce, je peux pas la fournir, c'est lui qui prend la responsabilité. D'ailleurs, si vous vérifiez sur les dossiers, à la fin, vous signez le demandeur signe comme quoi il a déposé telle pièce et qu'il sait qu'il manque telle ou telle pièce. Voilà. Donc TLS n'a pas le droit de refuser les dossiers. Donc ils sont obligés de nous transmettre les dossiers. Donc nous, quand on ouvre les dossiers, il faut le voir, les gens pensent avoir fait un dossier complet, souvent il y a des choses qui ne sont pas complètes. Souvent aussi, il y a des faux documents. Et ça, j'attire l'attention des demandeurs sur le rôle d'un certain nombre d'agences, d'officines, qui vont vous promettre d'avoir un visa rapidement, d'avoir un rendez-vous très rapide et de vous constituer des dossiers qui passeront systématiquement. Faites très attention. Ça peut être faux. Faisons très attention sur les réservations d'hôtels. On le voit que toutes ces réservations faites sur un certain nombre de sites internet sont des réservations qui ont été annulées. Pourquoi elles ont été annulées? Parce que la majorité de nos amis tunisiens vont en famille. En France. On a 800 000 Tunisiens en France. Donc je ne doute pas qu'il y a des échanges familiaux. Simplement, dites à votre frère, à votre père, à votre cousin qui est en France, fais-moi un certificat d'hébergement, va à la mairie pour faire certifier l'hébergement et ça va dans le dossier et c'est un document vrai. Tandis que si on a une fausse réservation d'hôtel, on est en droit de le considérer comme une fausse réservation. Alors, comme je vous le disais...
Alors, vous savez pourquoi ils font ça? Comment ils vont l'expliquer? Ils vont certainement expliquer. Ils vont dire, ah ouais, mais ils vont dire que j'ai un cousin là-bas, donc je risque de rester et de cramer mon visa. Moi, je vais vous le dire cash.
Ah oui.
Bon, non, parce on vous l'a pas dit. Bon, ben voilà, non. Je vous explique. C'est comme ça que les personnes vont réfléchir. Ils vont se dire, ah ouais, il a de la famille, donc il risque de ne pas revenir en Tunisie. Donc
non,
il dit, je vais mettre l'hôtel.
Une personne qui a la volonté de rester en Europe ou en France, elle le fera, qu'elle est de la famille ou qu'elle n'est pas de la famille, vous voyez.
Ouais, ouais.
Non, c'est pas notre...
c'est entre autres
raisons. Oui, voilà.
Hein,
mais ce que je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est vraiment, les gens, faites attention. Il faut que les gens fassent attention sur leurs dossiers.
Voilà,
moi, je reçois je les regarde, les dossiers. Je vais vous dire, depuis que je suis arrivé, j'ai été visiter TLS plusieurs fois, même de façon un peu anonyme au début, quand on ne me connaissait pas trop. Je prends un certain nombre de dossiers pour aller voir pourquoi les dossiers sont refusés, etc. Dans la majorité des cas, les gens vous disent « Non, mais j'avais tout fait comme il faut » et on s'aperçoit qu'il manque des choses. Alors, je ne vous parle même pas des documents où il y a de la fraude de temps en temps, où on a des fausses attestations, où on a des faux rendez-vous médicaux, etc. Donc, tout ça, c'est très, très gênant. Donc, vraiment, j'engage les gens à constituer des dossiers complets, à les surveiller d'eux-mêmes, à ne pas les confier à une tierce personne, parce que ce n'est pas vrai. Cette tierce personne n'aura pas forcément les meilleures informations et les meilleures dispositions. Et puis, encore une fois, nous, on est contraints par des procédures Schengen. Donc, on a des taux de refus qui sont inférieurs au taux de refus, à la moyenne des taux de refus des autres ambassades ou consulats européens en Tunisie. Donc on est plutôt mieux placé. Ça veut dire presque, nos amis européens nous disent on est plutôt laxiste.
Sur les 800, on va marquer une courte pause, mais juste avant, sur les 800 000 dossiers que vous recevez par jour, vous acceptez à peu près combien en moyenne?
Ben, je vous ai dit, le taux d'acceptation aujourd'hui, c'est à peu près 3 dossiers sur 4. C'est 72-73%. Et c'est en baisse. Et on va baisser augmenter ce taux-là. On va augmenter, on va baisser le taux de refus. Il descend lentement, trop lentement, mais il descend depuis qu'on est sorti des mesures incitatives. Mais on ne peut le faire que si, effectivement, nous avons face à nous des bons dossiers. Parce que, pour finir, nous sommes redevables. C'est pas la France, c'est nous sommes redevables devant Schengen, devant les pays Schengen. Je vais vous dire, sur mon ancien poste, j'avais énormément d'Irakiens qui partaient, qui prenaient un visa français.
Vous étiez à Erbil.
Voilà, j'étais à Erbil. Et énormément d'Irakiens ou d'Iraniens ou d'autres qui partaient vers la France. Et puis, enfin, qui allaient migrer sur l'Allemagne, où il y a une communauté irakienne kurde un peu plus importante. Eh bien... on recevait les dossiers de nos collègues allemands qui nous disaient « Dites donc, c'est vous qui avez donné le visa à monsieur un tel, avec rien dans le dossier. » Donc on devait leur retransmettre le dossier, d'accord? Et si le dossier était totalement incomplet, les Allemands nous disaient, téléphoner à la préfecture de police à Paris pour leur dire « Venez, nous on a quelqu'un à Stuttgart, venez le chercher. » Et au frais de la France. Voyez. Donc on est quand même sous le contrôle de nos 26 autres collègues européens qui sont en droit de nous reprocher de donner des visas sans respecter la procédure. Donc ce n'est pas des procédures françaises, c'est des procédures européennes.
Alors on va marquer une courte pause, juste après on revient alors avec deux sujets, parce que vous êtes consul de France à Tunis, alors vous traitez les visas, mais vous n'avez pas que les visas, vous avez des citoyens français qui vivent ici. Il y en a combien? Il y en a 30 000
non. Il y en a 30 000 à peu près, c'est une estimation.
On va parler un petit peu de leurs préoccupations, mais juste avant, on va clôturer, juste après la courte pause, le sujet des visas, avec ces propositions qui reviennent. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en train de dire ça, sur les réseaux d'avoir des visas spécifiques pour certaines professions, un visa d'affaires par exemple, enfin un visa pour les hommes d'affaires qui serait d'une durée plus longue, qui éviterait de revenir régulièrement, ou pour certaines professions, enfin professions libérales qui sont amenées à bouger en tant que consultant, en tant qu'expert, qui font des va-et-vient, etc. Fasel Rajain ma Hotel France Bitus.
Interview.
Monsieur Nizan Fejjus, c'est la dernière partie de notre interview avec le consul de France à Tunis, Dominique Masse. Bonjour de nouveau. Alors, pour clôturer ce dossier des visas, alors est-ce que c'est envisageable aujourd'hui? Il y a des visas pour des artistes, enfin il y a déjà des visas spécifiques pour certaines populations artistiques ou autres. Est-ce qu'il peut y en avoir un pour les professions libérales? On les a vus demander ça régulièrement parce qu'ils sont souvent en mission, ils font des va-et-vient, ils bougent. Est-ce qu'il peut y avoir ce type de visa?
Alors d'abord, comme je vous redis ce chiffre qui est frappant, parce que c'est certainement l'un des plus hauts dans notre réseau consulaire. 40% des visas que nous délivrons sont des visas qui sont valables plus de 6 mois. C'est-à-dire, sont des visas qu'on peut utiliser pendant 6 mois, pendant 1 an, jusqu'à 4 ans. Mmh. Jusqu'à la durée du passeport, bien entendu, hein, durée de validité du passeport. Donc déjà, on fait cet effort-là. On le fait effectivement plutôt à destination des populations qui ont, ou des personnes qui ont besoin de se déplacer, mmh. et de se déplacer souvent. Donc ça fait partie, effectivement, il y a un certain nombre de professions qui sont traitées de cette façon-là. Les professionnels ont la possibilité d'accéder à travers les chambres de commerce à des facilitations pour les rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils obtiennent un rendez-vous plus rapidement, hein, et puis nous les traitons bien entendu de façon circonstanciée. C'est-à-dire on fait quand même plus attention à ces dossiers-là parce qu'on sait qu'il y a des activités économiques qui sont en jeu derrière. Donc ça, ils font déjà partie d'un traitement particulier. Puis nous avons effectivement, vous l'avez mentionné, un passeport particulier, un passeport talent, qui est très spécifique, qui s'adresse à des catégories socioprofessionnelles très précises, notamment les artistes, mais jusqu'à quelques temps c'était aussi les médecins. On a un certain nombre de professions qui passent, je ne pourrais pas vous les citer maintenant, mais qui font partie de ces passeports talents et qui permettent aux gens de partir, y compris avec leur famille, pour rejoindre leur lieu de travail en France. Donc il y a déjà des dispositifs qui existent, mais nous avons un certain nombre, moi j'ai des relations très, très étroites avec de nombreuses entreprises françaises ou tunisiennes en Tunisie, et qui ont besoin justement de cette fluidité, hein, qui ont besoin de cette mobilité, qui envoie des experts tunisiens en France pour des missions de 15 jours à parfois 3 mois, eh bien elles passent directement par le consulat général, elles passent par les chambres de commerce et elles ont cette possibilité d'avoir des facilitations pour l'obtention des rendez-vous.
Alors, justement, pour dernière question qui revient très souvent. Alors, aujourd'hui, vous dites, on est les plus, enfin, le consulat qui délivre le plus de visas, enfin, par rapport aux autres pays, etc. Mais la durée du traitement des dossiers.
Oui.
Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je le dis, c'est pas un secret, c'est normal, du par le métier qu'on fait, on reçoit des messages sur les réseaux sociaux des gens qui veulent qu'on les aide. Alors ça, le message que je reçois souvent, je suis bloqué, j'ai un autre voyage et j'ai mon passeport. Limite, les gens parfois ils disent, on n'en veut plus, on a besoin de partir d'urgence ailleurs et notre passeport est bloqué. Là par exemple, il y a la DG d'une très grande enseigne, très grande entreprise qui dit, mon passeport, voilà, enfin il est bloqué chez vous depuis un moment. En parlant de visa talent, Il y a quelqu'un qui dit depuis le 12 décembre, je n'ai aucun retour sur mon visa, je risque d'être dans une situation de précarité et perdre l'opportunité qui s'offre à moi de partir dans le cadre de son métier enfin, en France. Voilà. Est-ce qu'il y a une lenteur? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez remarqué par contre au niveau de vos services qu'on traite les dossiers sur un délai un peu plus long que d'habitude?
Déjà, en temps normal, il faut au moins 15 jours à 20 jours de délai de traitement d'un dossier. Pourquoi? C'est tout simple, c'est que nous sommes tenus de consulter les autres pays européens. Les autres pays européens ont entre 10 et 15 jours pour nous répondre. Donc tant qu'ils n'ont pas répondu, on ne peut pas délivrer le visa. Donc il y a ce délai incompressible de 10 à 15 jours. Alors je vais vous parler très franchement, et je ne vais pas nier les problèmes. On est face à de gros problèmes de traitement des dossiers, pour deux raisons. D'abord parce que depuis la fin du premier semestre 2022, la fin du Covid, on a un afflux de dossiers et on essaie de les traiter. Et puis, en octobre, non, novembre dernier, nous avons, au niveau de l'ensemble des pays du Maghreb, changé de plateforme digitale pour le traitement des dossiers visa. Et ça a impliqué un changement dans l'organisation du service, donc ça a impliqué de la formation pour nos agents, une prise en main un peu plus lente que prévu du logiciel, donc on a pris un peu de retard. Avec bien entendu un afflux de demandes de visa pour les fêtes de Noël qui était bien entendu supérieur à ce qu'on avait imaginé. Mmh. Donc les délais effectivement prennent un peu plus de temps et vraiment je m'en excuse, mais on a pris un certain nombre de mesures pour y remédier. D'abord, nous avons plus de ressources humaines. Hein, et la ministre Catherine Colonna l'avait signalé dans une intervention à l'Assemblée nationale. Elle s'était engagée à mettre des ressources humaines supplémentaires sur le traitement des visas. Ces choses faites, nous avons et nous accueillons très bientôt notre dernier agent qui viendra de France. Mais nous avons aussi un certain nombre de ressources humaines locales que nous avons employées. Nous avons remis en place un certain nombre de procédures pour faciliter certains visas que je ne peux pas décrire ici, mais et puis bien entendu nous sommes obligés de trier un peu, de prioriser les demandes, et c'est vrai que nous avons mis une priorité sur les visas professionnels et les visas qui intéressaient directement la coopération technique et culturelle entre la France et la Tunisie, et bien entendu les visas famille, hein, les gens qui vont voir leur famille en France, et surtout les visas médicaux, puisqu'on a un certain nombre de gens qui se font soigner en France, et ces dossiers-là font l'objet d'une attention très particulière puisqu'on essaie de les accélérer au maximum.
Donc est-ce qu'il y a l'engagement sur une réduction des délais d'attente sur la prochaine période ?
Un engagement, après vous allez me réinviter dans 6 mois pour me dire vous n'avez pas respecté vos engagements, donc je vais être très diplomatique et très prudent, mais il y a un travail qui est fait dessus, j'ai bon espoir que ça se réduise, les indicateurs que j'ai aujourd'hui montrent que ça se réduit trop lentement. Hein. Je suis tout à fait conscient que les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous à TLS sont trop longs, mais c'est simplement parce que derrière, nous n'arrivons pas à traiter plus de 800 dossiers par jour. Hein. Voilà. Donc on est contraint, on en est conscient, mais sachez qu'on a pris toutes les mesures en termes de ressources humaines, en termes de procédures, pour accélérer la remise de visa, au moins le traitement des dossiers.
Très bien, alors il y a des Français qui vivent en Tunisie, et vous devez également vous occuper de ces Français-là, ce qu'on appelle l'état civil, ils ont également leur service, eux également ils ont, voilà, ils vont...
On a, comme je vous disais, 30 000. Estimation de 30 000 Français qui vivent ici, qui travaillent ici, ou qui sont à la retraite, qui contribuent à la richesse de ce pays, et le consulat général, c'est de les traiter, de les...
Et comment ça se passe, le traitement de leur
requête ? Ça se passe très bien.
C'est
fluide, oui. Les gens se plaindront toujours un peu, mais on arrive... Ouais. D'abord, on travaille sur rendez-vous pour différentes raisons, notamment sécuritaires. Mais les rendez-vous sont pris, il n'y a pas d'affluence. Moi, je constate que depuis 3 mois, il n'y a pas d'affluence particulière. Les gens sont reçus à l'heure prévue. Il faut savoir qu'on reçoit, en 2022, on a reçu 17 000 usagers, rien que dans nos bureaux. Normalement, on est en année normale, c'est-à-dire en 2019, on était à 35 000 visiteurs dans les bureaux. On délivre par an environ 8 000 passeports et cartes d'identité qui sont délivrés chaque année. Donc c'est quand même un énorme travail, et c'est le consulat général en Tunisie. Et est un poste énorme. On parlait tout à l'heure sur les visas, on est quand même le quatrième consulat français en termes d'examen, de demande de dossier de visa. Hein? Mais on est le troisième en termes de bourses, puisque nous versons un certain nombre de bourses scolaires aux jeunes enfants français ou binationaux français-tunisiens qui sont dans les écoles homologuées françaises. Donc c'est 3,4 millions de bourses d'euros que nous versons chaque année en termes de bourse, mais nous avons aussi beaucoup d'allocations sociales pour environ 300 personnes françaises qui sont dans le besoin, souvent des personnes âgées qui n'ont plus vraiment beaucoup de revenus ou qui sont dans une situation de dépendance physique. Donc on les aide. Là aussi, c'est pareil, nous disposons du quatrième budget social dans le réseau français, c'est-à-dire qu'on est le quatrième consulat au monde en termes de flux financiers. Et puis nos Français, ben, ils meurent, ils naissent, ils se marient, c'est l'état civil, c'est 1500 actes d'état civil que nous avons, que nous établissons chaque année. Et une chose peut-être que que vous ne savez pas, c'est aussi les nationalités, puisque nous avons délivré l'année dernière 150 nationalités françaises. Donc des personnes de nationalité tunisienne sont aujourd'hui binationales, parce qu'elles sont mariées à un Français pour différentes raisons. Hein. Sachez simplement pour mémoire que en total, c'est 8000 Tunisiens qui chaque année acquièrent la nationalité française, deviennent binationaux. C'est essentiellement des gens qui vivent en France, hein, et ils sont naturalisés par décret.
Dont 150
que nous traitons ici, et ça nous fait très plaisir. Je vais recevoir très, très prochainement une vingtaine de ces nouveaux Français. Je les reçois chez moi, à mon domicile, pour célébrer un moment important dans leur vie, je pense, c'est ce qu'ils me disent, qui est cette acquisition, ce passage à la citoyenneté française, sans oublier sa citoyenneté tunisienne. Et c'est toute la beauté de l'exercice. Et nous avons des gens qui sont avec ces deux cultures et qui sont nos passerelles.
Merci à vous, Dominique Mast, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Consul de France, c'était votre première apparition médiatique. Il y a encore une tonne de questions, mais ça, vous avez l'habitude de gérer. Vous allez voir sur les réseaux sociaux.
Prenez les questions.
On a parlé tout à l'heure de la question des professions libérales. Il y a la question des chambres de commerce également qui ont envoyé. J'ai même des présidents de chambres qui ont envoyé, voilà, est-ce qu'ils pouvaient avoir un traitement spécial. Ils disent, il y a des gens qui vont et qui viennent très régulièrement, ne serait-ce que pour le renouvellement de leur visa. On redemande les mêmes papiers. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une procédure plus allégée pour des personnes qui ont déjà prouvé, qui savaient des années, qui prévoir peut-être, essayer de revoir.
Est-ce qu'il y a cette volonté de
revoir un petit peu, peut-être,
de réfléchir à revoir. Sincèrement, si ça tenait qu'à nous, on préférerait aller à la plage. Donc, on donnerait des visas 4 ans à tout le monde. D'accord. Si on demande à avoir des dossiers complets, on analyse, c'est parce que justement on est contraint par la réglementation.
Merci à vous. Merci beaucoup.